Extrait des chroniques du hors-temps. Le dragon de feu, l'arbalète à répétition et le programme escalier. Durant la dynastie des Ming, la marine chinoise mit au point une arme spéciale. Le dragon de feu sortant de l'eau. Une fusée à deux étages aux extrémités de laquelle étaient fixées deux grandes fusées propulsives et qui renfermaient d'autres petites fusées. Les fusées du premier étage propulsaient d'abord l'engin au ras de l'eau, puis elles mettaient automatiquement le feu aux plus petites fusées qui, expulsées par la bouche du dragon, fondaient sur les navires ennemis. Lors de guerres plus anciennes, étaient utilisées des arbalètes à répétition, dont faisaient mention des annales européennes et dont on attestait l'existence en Chine dès l'époque des Trois Royaumes. Leur principe était le suivant. Une fois un carreau tiré, un deuxième venait automatiquement remplacer le premier, et ainsi de suite jusqu'à ce que le chargeur soit vide. Ces deux armes avaient en commun d'utiliser de façon novatrice des technologies pourtant rudimentaires, ce qui leur donnait paradoxalement une impression de puissance transcendant le temps. En examinant aujourd'hui avec du recul le programme escalier, on peut noter une certaine analogie entre celui-ci et les deux armes. Le programme s'appuyait sur une technologie primitive mais créative, consistant à propulser une charge très légère à 1/100 de la vitesse de la lumière. Sans l'élaboration de ce programme, la prouesse n'aurait été rendue possible que par l'intermédiaire d'une technologie qui serait inventée 1,5 siècle plus tard. À cette époque, l'humanité avait déjà envoyé des appareils spatiaux hors du système solaire et des sondes avaient déjà eu l'occasion d'observer les satellites de Neptune. L'homme avait donc atteint une certaine maturité dans la maîtrise de la propulsion nucléaire. Toute la difficulté revenait à maîtriser les trajectoires précises qu'emprunterait la sonde entre les segments séparant les différentes bombes pour enclencher celle-ci au moment idoine. Chaque bombe devait en effet exploser juste après que la voile radiative l'eût dépassée. La distance entre chaque bombe variait entre 3 et 10 000 mètres en fonction de sa puissance. À mesure que la vitesse de la sonde augmentait, le degré de précision devait être de plus en plus élevé. Mais même si la vitesse de la voile atteignait le fameux 1/100 de la vitesse de la lumière, la marge d'erreur demeurait au-dessus de la nanoseconde. Ce qui était largement à la portée des technologies de l'époque. La sonde elle-même n'était équipée d'aucun moteur de propulsion. Sa trajectoire de navigation était donc entièrement déterminée par la position relative des bombes. À chacune d'entre elles étaient associés de petits propulseurs permettant d'ajuster correctement leur position avant que la voile ne passe devant. Quand celles-ci arrivaient à leur hauteur, il n'y avait entre les bombes et elles que quelques centaines de mètres d'écart. En jouant sur cette distance, il était possible de modifier l'angle entre la voile et la force de propulsion générée par la détonation afin de guider la sonde sur la bonne trajectoire. La voile radiative était une fine membrane flexible et sa seule manière de remorquer la capsule contenant le chargement était de les raccorder par le biais de haubans. L'ensemble avait donc l'aspect d'un gigantesque parachute suivant une trajectoire horizontale. En fonction de leur puissance, les bombes explosaient à une distance pouvant aller de 3 à 10 km derrière la voile. Pour éviter les dommages que pourraient faire subir les radiations nucléaires au chargement, les haubans devaient être très longs afin de maintenir la capsule vers l'arrière. La distance entre la voile et le chargement pouvait ainsi s'étendre jusqu'à 500 km. La coque extérieure de la capsule était en outre recouverte de matériaux réfrigérés par compression de vapeur. Tandis que les bombes explosaient, les matériaux s'évaporaient, avec pour double effet de refroidir la capsule tout en réduisant son poids. Si ce super parachute venait à s'écraser sur Terre, la capsule se trouverait encore à 500 km dans l'espace au moment de la chute de la voile. Les haubans étaient fabriqués dans un nanomatériau appelé poignard volant, de l'épaisseur d'un filament de toile d'araignée et invisible à l'œil nu. 8 grammes seulement de poignard volant suffisait pour tirer un hauban sur 100 km et permettait de haler sans peine la capsule lors des accélérations de la voile, sans crainte que les haubans soient endommagés par les radiations nucléaires. Le dragon de feu et l'arbalète à répétition n'auraient jamais pu rivaliser avec un missile à deux étages et une mitrailleuse. De même, le programme Escalier ne faisait pas entrer l'humanité dans un nouvel âge de la navigation spatiale. Ce n'était qu'une tentative désespérée, s'appuyant sur ce que la technologie limitée de l'époque pouvait offrir. Le lancement groupé des missiles balistiques intercontinentaux Peacekeeper avait débuté une demi-heure plus tôt. Les sillages de 6 missiles se superposaient en une seule ligne qui, sous un rayon de clarté lunaire, traçait une passerelle argentée semblant mener au royaume des cieux. Toutes les 5 minutes, des boules de feu s'élevaient dans le ciel pour emprunter la passerelle. Les ombres des arbres et des hommes se déplaçaient sur Terre comme des trotteuses d'horloge. Le premier lancement enverrait en orbite 30 missiles, eux-mêmes porteurs de 300 ogives nucléaires, dont la puissance variait entre 50 et 250 tonnes d'équivalent TNT. En même temps avait lieu en Russie et en Chine le lancement de missiles Topol-M et Dongfeng. La scène avait ici des airs d'apocalypse, mais les yeux experts de Cheng Xin pouvaient voir d'après les angles pris par les missiles qu'ils étaient bien lancés en orbite et non sur d'autres continents. Ces objets capables d'ôter la vie à des millions de personnes ne reviendraient plus jamais à la surface de la Terre. Leur gigantesque puissance servirait dorénavant à propulser une plume à 1% de la vitesse de la lumière. Les yeux de Cheng Xin tournés vers le ciel se mouillèrent de larmes, luisant sous l'éclat lumineux de chaque nouveau missile lancé en orbite. Elle se répétait à elle-même que quoi qu'il advînt désormais, il avait valu la peine de mener le programme Escalier jusqu'ici. Wade et Vadimov, qui se tenaient à ses côtés, restaient toutefois de marbre face à ce spectacle sublime. Ils ne daignaient même pas lever la tête. Ils se contentaient de fumer leurs cigarettes en discutant de quelque chose à voix basse. Cheng Xin savait trop bien quel était le sujet de leur conversation. Le choix du candidat du programme Escalier. Durant la dernière réunion des membres permanents du CDP, on avait pour la première fois de l'histoire du Conseil voté en faveur d'une proposition n'ayant même pas été formulée par écrit. Pour la première fois aussi, Cheng Xin avait été témoin de l'éloquence de Wade. Lui, qui était d'ordinaire si avare de paroles, avait convaincu les représentants que si les trisolariens étaient en mesure de ressusciter un corps surgelé, ils pourraient certainement en faire autant pour un simple cerveau, et arriverait à communiquer avec lui par l'intermédiaire d'une interface externe. Pour une civilisation capable de déployer un proton en 2 dimensions et de graver des circuits électroniques à sa surface, cette opération serait un jeu d'enfant. En un sens, envoyer un cerveau n'était pas si différent d'envoyer un corps humain intégral, car c'était l'organe renfermant la conscience, la personnalité, la mémoire, et grâce auquel l'espion pourrait fomenter son intrigue. Si l'expérience réussissait, cela reviendrait tout de même à avoir expédié une bombe à retardement dans le cœur de l'ennemi. Les représentants avaient quelques doutes sur cette prétendue équivalence entre un cerveau et un individu, mais ils finirent par accepter, d'autant que le plus grand intérêt du programme Escalier à leurs yeux résidait surtout dans le développement d'une technologie de propulsion capable de pousser un appareil à 1% de la vitesse de la lumière. La proposition fut donc adoptée à 5 voix pour contre 2 bulletins blancs. Une fois le programme Escalier officiellement adopté, la principale préoccupation fut le choix de l'individu dont on enverrait le cerveau dans l'espace. Cheng Xin avait du mal à rassembler suffisamment de courage pour imaginer à quoi celui-ci ressemblerait. Même en supposant que son cerveau puisse réellement être intercepté et ressuscité, sa vie, si tant est qu'on puisse encore parler de vie pour désigner une telle existence, serait un véritable cauchemar. Chaque fois qu'elle y pensait, c'était comme si une main d'une température de moins 200 degrés lui agrippait le cœur. Mais les dirigeants et les exécutants du programme Escalier ne souffraient pas des mêmes déchirements. Si l'ARP avait été une agence de renseignement national, l'affaire aurait d'ailleurs été réglée très vite. mais celle-ci était par définition une émanation du comité de renseignement formé par les représentants des pays permanents du CDP, et une fois que le contenu du programme Escalier serait révélé à la communauté internationale, la question deviendrait extrêmement sensible. Le problème clé était le suivant. Avant d'envoyer le cerveau de l'espion, il fallait d'abord le, ou la, tuer. Depuis que la panique née au lendemain de la crise trisolarienne était en partie retombée, une voix commençait à devenir majoritaire dans la sphère géopolitique internationale. Il fallait à tout prix éviter de tirer profit de la crise à d'autres fins, et en particulier de la laisser devenir une menace pour la démocratie. Les membres de l'ARP avaient tous reçu la consigne de leur propre gouvernement d'être extrêmement prudents lors du choix des candidats au programme Escalier. Il ne fallait pas donner le bâton pour se faire battre. Face à cet obstacle, Wade apporta une nouvelle solution. Convaincre le CDP, puis à travers lui les Nations Unies, de promouvoir auprès du plus grand nombre de nations possible la mise en place d'une loi autorisant l'euthanasie. Cette fois, néanmoins, Wade ne paraissait pas lui-même être tout à fait convaincu de cette suggestion. Très vite, pourtant, trois des pays membres permanents du CDP sur sept promulguèrent une loi allant dans ce sens. Celle-ci devait cependant ne souffrir d'aucune ambiguïté. L'euthanasie ne pouvait être proposée qu'à des malades en phase terminale que les avancées médicales contemporaines ne parvenaient pas à soigner. Pour le programme Escalier, c'était une restriction embarrassante, mais il paraissait difficile d'aller plus loin. Ainsi, les candidats au programme Escalier devaient être cherchés parmi les malades incurables. Les bourdonnements et les flamboiements qui illuminaient le ciel s'estompèrent. Le lancement des missiles était achevé. Wade et quelques observateurs du CDP montèrent dans leur voiture et repartirent. Il ne resta plus sur place que Vadimov et Chung Sin. Et si nous allions voir ton étoile ? Quatre jours plus tôt, Chung Sin avait reçu l'acte de propriété de l'étoile DX-3906. Cette énorme surprise l'avait plongé dans un bonheur étourdissant. Toute la journée, elle avait psalmodié sans relâche. « On m'a offert une étoile. On m'a offert une étoile. J'ai une étoile à moi. » Le jour même, en allant remettre son rapport de travail à Wade, elle rayonnait tant de plaisir qu'elle n'avait pu attendre que le directeur de l'agence l'interroge sur sa bonne humeur pour lui annoncer d'elle-même la nouvelle et lui montrer l'acte de propriété. « Un vulgaire bout de papier », avait lâché Wade en lui rendant négligemment le document. « Si tu étais maligne, tu le revendrais tout de suite avant qu'il n'ait plus aucune valeur. » Mais le cynisme de Wade n'avait pas réussi à entamer la gaieté de Chung Sin, d'autant qu'elle avait anticipé sa réaction. De Wade, Chung Sin ne connaissait que ses anciens états de service. Il avait tout d'abord été engagé au sein de la CIA, puis avait été nommé premier secrétaire du département de la sécurité intérieure des États-Unis avant d'être désigné directeur de l'agence. Quant à sa vie privée, elle savait seulement depuis la dernière fois qu'il avait une mère et que sa mère avait un chat. Personne ne savait rien d'autre à son sujet. On ignorait par exemple où il habitait. C'était une véritable machine. Quand il ne travaillait pas, il se débranchait et s'enfermait dans un endroit inconnu. Chung Sin n'avait pu s'empêcher de rapporter la nouvelle à Vadimov. Ce dernier l'avait quant à lui chaudement félicité, racontant que toutes les femmes de la Terre, celles en vie et même les princesses ayant déjà rejoint l'autre monde, devaient en crever de jalousie. Elle était sans aucun doute la première femme de l'histoire à recevoir une étoile comme présent. Quoi de plus beau cadeau qu'une étoile à l'être qu'on aime ? Mais qui ? S'était demandé Chung Sin.
Ça ne doit pas être bien dur à deviner. Tout d'abord, il doit être richissime pour avoir les moyens de faire un cadeau à 9 chiffres ayant surtout une valeur symbolique.
Chung Sin avait secoué la tête. Depuis l'école jusqu'à son entrée dans la vie active, elle avait eu des myriades d'admirateurs et de prétendants, mais elle n'en connaissait aucun d'aussi fortuné.
Et en même temps, il doit être très cultivé, le genre de gars qu'on trouve rarement au milieu d'une foule,
avait continué Vadimov, levant les yeux au ciel et lâchant malgré lui un soupir d'admiration.
Un tel niveau de romantisme, bordel, je n'avais jamais vu ça, même pas dans un film ou un roman à l'eau de rose.
Cheng Xin avait elle aussi soupiré d'émotion. Son adolescence avait été baignée par les rêves roses que lui inspiraient les romans d'amour qu'elle se plaisait à dévorer. Mais malgré son jeune âge, elle avait déjà pris l'habitude d'ironiser sur ses vieux fantasmes. Elle ne s'était pas imaginé que cette étoile soudain venue bouleverser son quotidien dépasserait de loin tous les rêves romantiques de sa jeunesse. Elle était absolument certaine de ne connaître aucun homme de ce genre. Peut-être était-ce l'œuvre d'un admirateur lointain et secret qui, sur un coup de tête, avait assouvi un caprice en dilapidant une petite partie de son immense fortune afin de satisfaire un désir dont elle n'avait jamais rien su. Mais même si c'était le cas, elle lui en était reconnaissante. La nuit même, Cheng Xin était montée au sommet du One World Trade Center, impatiente de pouvoir contempler son astre. Avant cela, elle avait lu en détail le guide d'observation stellaire envoyé avec l'acte de propriété. Mais le ciel de New York était ce soir-là bardé de nuages. Il avait continué à faire gris le lendemain et le surlendemain. Les couches de nuages étaient des mains immenses qui se jouaient d'elle, refusant de lui rendre son cadeau. Toutefois, Cheng Xin n'en éprouvait aucune frustration. Elle savait que ce présent ne pourrait jamais être perdu. DX-3906 demeurerait peut-être même dans l'univers encore plus longtemps que la Terre et le Soleil, et il y aurait forcément un jour où elle pourrait la contempler. Ce soir-là, elle était restée longuement sur le balcon de son appartement, en essayant de se représenter son étoile au milieu du voile de la nuit. Les lumières de la ville répandaient sur les nuages une lueur jaune sombre, mais Cheng Xin s'imaginait que son DX-3906 les colorait de rose. Elle avait fait un rêve dans lequel elle volait en rase-motte au-dessus de l'étoile. Sa surface ne brûlait d'aucun brasier meurtrier et dégageait seulement la fraîcheur d'une brise printanière. Cheng Xin traversait un océan aux eaux claires à travers lequel elle pouvait distinguer des forêts d'algues roses. Elle avait ri d'elle-même à son réveil. Même en rêve, l'experte astronome qu'elle était n'aurait pas dû oublier que DX-3906 ne possédait aucune planète. Le quatrième jour après avoir reçu son étoile, elle s'était envolée en compagnie de quelques collègues de l'ARP à Cap Canaveral pour assister au lancement des missiles. Pour répondre à certaines exigences d'un lancement spatial, les missiles intercontinentaux ne pouvaient être mis à feu dans leur base d'origine et avaient été rassemblés ici. Dans cette nuit sans nuages, les sillages des missiles commençaient à se dissiper. Cheng Xin et Vadimov consultèrent une nouvelle fois le guide d'observation de DX-3906. Étant tous deux familiers d'astronomie, ils n'eurent aucun mal à repérer rapidement la position de l'étoile, mais ils ne parvinrent pas à la voir. Vadimov sortit de sa voiture deux paires de jumelles militaires et ils les pointèrent dans la direction indiquée. Ils identifièrent DX-3906 sans difficulté, après quoi ils purent la retrouver à l'œil nu sans avoir besoin des jumelles. Cheng Xin resta un long moment en extase devant ce point de lumière rouge sombre, s'attachant à appréhender ce lointain inconcevable et à traduire cette distance en des termes représentables. Si mon cerveau embarquait dans un appareil du programme Escalier, il lui faudrait 30 millénaires avant de la rejoindre. Tu imagines ? Elle n'obtint aucune réponse. Tournant la tête, elle vit que Vadimov ne regardait plus l'étoile. Il était adossé contre la voiture, le regard vide. Malgré la pénombre, on pouvait entrevoir une mélancolie qui barbouillait son visage. « Mikhaïl, qu'y a-t-il ? » demanda Cheng Xin avec sollicitude. Celui-ci ne répondit qu'après un long silence. « Je fuis mes responsabilités. »«
Quelles responsabilités ? » ?»«
Je suis le meilleur candidat pour le programme Escalier. » Après un moment de surprise, Cheng Xin se fit la réflexion que même si elle n'y avait jamais songé, Mikhaïl avait raison. Il possédait une solide expérience dans le domaine de la navigation spatiale.
Un riche vécu dans celui des relations internationales et des renseignements. Il était psychologiquement stable, mature. Même en élargissant les candidatures à l'ensemble des individus en bonne santé, Vadimov restait le meilleur choix possible.
« Mais tu n'es pas malade ?»«
Certes, mais je fuis quand même. »«
Quelqu'un t'a-t-il fait des allusions ?»
Chung Sin pensa aussitôt à Wade.
« Non, mais il n'empêche que je suis un lâche. Je me suis marié il y a tout juste 3 ans. Ma fille n'a 1 an. Ma famille compte tellement pour moi. Je n'ai pas peur de mourir, mais je ne peux pas supporter l'idée qu'il me voit devenir quelque chose d'encore plus pitoyable qu'un cadavre. »«
Mais tu n'as absolument aucun devoir ?»
« Ni l'ARP ni ton gouvernement ne t'ont jamais ordonné de mener cette mission, et ils ne pourront pas le faire. »«
Oui, je voulais seulement te dire que j'aurais été le meilleur candidat. »«
Mikhaïl, l'humanité n'est pas un concept abstrait. L'amour de l'humanité commence par l'amour de ses représentants. Il n'y a rien de mal à se sentir d'abord responsable de ce qu'on aime. C'est absurde de t'en vouloir pour ça. »
Merci pour ces mots, Sin. Ce cadeau, tu le mérites, dit-il en levant les yeux vers l'étoile. Moi aussi, j'aimerais leur offrir une étoile.
Une tache lumineuse surgit dans le ciel, puis encore une autre projetant des silhouettes sur le sol. Des essais de propulsion nucléaire étaient en train d'être menés dans l'espace. Le travail de recherche des candidats au programme Escalier s'intensifiait. Mais il n'exerçait pas une grande pression sur les épaules de Chung Sin. Elle était simplement chargée de quelques aspects de la sélection, par exemple l'examen des expériences des candidats dans le domaine de la navigation spatiale, un prérequis néanmoins indispensable. Le périmètre des candidatures se limitant aux malades en phase terminale des 3 seuls pays membres permanents du CDP à avoir légalisé l'euthanasie, ils avaient bien du mal à trouver un candidat présentant le profil idéal. Aussi, l'ARP s'efforçait de passer par d'autres canaux afin d'identifier des concurrents potentiels. Un ami d'université de Chung Sin lui rendit un jour visite à New York. Ils en vinrent à discuter de ce qu'étaient devenus leurs anciens camarades et évoquèrent le cas de Yun Tianming. Chung Sin apprit de Wu Wen que celui-ci était atteint d'un cancer du poumon et qu'il n'en avait plus pour longtemps. Sans réfléchir, Chung Sin alla aussitôt informer Yu Weimin, le vice-directeur de l'agence, et recommanda la candidature de Yun Tianming. Tout le restant de sa vie, Chung Sin ressasserait cet instant et, chaque fois, elle serait contrainte d'admettre qu'elle avait agi sans réfléchir. Chung Sin devait rentrer en Chine pour le travail. En tant qu'ancienne camarade de classe de Yun Tianming, Yu Weimin lui demanda de représenter l'ARP pour discuter avec lui de ce projet. Elle accepta immédiatement, toujours sans réfléchir. Quand il eut fini d'écouter le récit de Chung Sin, Yun Tianming se releva lentement et s'assit sur le lit. Chung Sin lui proposa de se rallonger, mais il répondit d'un air abasourdi qu'il souhaitait qu'on le laisse seul un moment. Chung Sin quitta la pièce à pas léger et ferma la porte derrière elle. Yun Tianming fut pris d'un fou rire hystérique. « Mais quel idiot! A-t-on jamais vu pareil idiot? As-tu vraiment cru qu'en lui offrant une étoile par amour, elle t'offrirait le sien en retour? Qu'elle franchirait le Pacifique pour te sauver avec ses larmes de sainte? Mais tu t'es cru dans un conte de fées? » Non. Chung Sin était venu lui demander de mourir. La déduction suivante lui arracha un rire encore plus suffocant. Au moment où Chung Sin était arrivé en Chine, elle n'avait pas pu deviner que Yun Tianming avait choisi de se faire euthanasier. Autrement dit, s'il n'avait pas pris la décision de mourir, elle aurait dû l'en convaincre elle-même, en le séduisant ou peut-être même en lui forçant la main. Non, ce n'était pas un départ en douceur. De douceur, il n'y en aurait pas dans le sort qu'elle lui destinait. En souhaitant sa mort, sa sœur voulait simplement éviter de dilapider l'argent de leur père. C'était un argument que Yun Tianming pouvait tout à fait comprendre, d'autant qu'elle voulait sincèrement qu'il parte le plus paisiblement possible.
Mais Cheng Xin, elle, souhaitait voir mourir dans de terribles souffrances. Comme tous ceux qui avaient étudié la navigation spatiale, Yun Tianming était terrifié par l'espace. Plus que quiconque, il connaissait ses dangers. Il savait que l'enfer ne se trouvait pas sous terre, mais dans le ciel. Et Cheng Xin voulait qu'une partie de lui, celle-là même qui portait son âme, erre pour l'éternité dans ces abysses obscurs, froids et infinis. Et c'était encore le mieux qui puisse lui arriver. Le véritable cauchemar commencerait si, comme le désirait Cheng Xin, son cerveau était capturé et ressuscité par les trisolariens. Ces extraterrestres sans cœur commenceraient d'abord par connecter son cerveau à une interface, puis ils se lanceraient dans toute une gamme de tests sensoriels, parmi lesquels évidemment un test de douleur, celui qui les intéresserait en priorité. Ils continueraient ensuite en lui faisant ressentir la faim, la soif, le coup de fouet, la brûlure, la suffocation et toutes les tortures connues. Le banc du tigre, l'électrocution, le démembrement. Il fouillerait dans ses souvenirs, chercherait le supplice lui inspirant la plus grande terreur, et il retrouverait la trace de cette méthode de torture qu'il avait un jour lue dans un étrange livre d'histoire. On écorchait d'abord la peau de la victime, puis on lui bandait le corps, et quand il s'était enfin vidé de son sang, on arrachait violemment les bandages. Ils enverraient alors à son cerveau des simulations sensorielles correspondantes. Mais si la victime du livre d'histoire mourait rapidement après un tel supplice, le cerveau de Yun Tianming resterait en vie. Tout au plus tomberait-il dans le coma. Mais pour l'ennemi, ce ne serait rien d'autre qu'un ordinateur éteint. Il le rallumerait et recommencerait encore et encore par curiosité scientifique ou simplement pour passer le temps. Il n'aurait aucune chance de s'échapper. Sans mains et sans corps, il ne pourrait même pas se suicider. Son cerveau serait une batterie qu'on rechargerait sans cesse en lui envoyant de la douleur, et cela jusqu'à la fin des temps. Il s'étouffait de rire. Cheng Xin poussa la porte et lui demanda s'il avait besoin d'aide. Son rire s'interrompit, et son visage se figea en une expression cadavérique. « Yun Tianming, je t'adresse cette demande au nom de l'Agence de renseignement stratégique du Conseil de défense planétaire des Nations Unies. Acceptes-tu, en tant que citoyen humain, de porter la responsabilité de cette mission? C'est une décision qui doit venir de toi. Tu es libre de refuser. » Devant la solennité cérémonieuse et l'espoir sincère qu'il pouvait lire dans les yeux de Cheng Xin, Yun Tianming comprit qu'elle luttait pour la civilisation humaine, pour la Terre. Que se passait-il autour de lui? Les dernières lueurs du crépuscule s'immisçaient à travers la fenêtre et venaient mourir sur le mur blanc de la chambre, comme une flaque de sang sale. Dehors, les arbres solitaires avaient l'aspect de squelettes surgissant de leur tombe. Un sourire triste s'esquissa au coin des lèvres de Yun Tianming, puis il s'élargit peu à peu. « Bien, j'accepte, » dit-il.